Alors, l'évangile de Luc au chapitre 11, les gens me demandent souvent ce qu'ils doivent faire pour que les promesses de Dieu se réalisent en eux. Ou ce qu'ils doivent faire pour que les promesses de Dieu se réalisent dans leur vie. Ou comment arriver au point où la parole de Dieu demeure profondément dans leur vie. Eh bien, si nous désirons la réalisation des promesses de Dieu dans notre vie, nous devons demander, nous devons chercher et nous devons frapper. Et si vous allez au 11e chapitre de Luc, au verset 9, il est dit, « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Car quiconque demande, reçoit, celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. N'est-ce pas merveilleux? Mon Dieu, c'est très simple. Demandez, cherchez, frappez. Car quiconque demande, reçoit, celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Tout est absolu. Maintenant, regardons à ce verset et examinons-le en détail. Alors, la première chose consiste à demander. Et quand nous demandons, nous devons remplir certaines conditions. Allons à 1 Jean, chapitre 5. Et Dieu nous dit qu'il y a trois parties pour recevoir quelque chose, et Jésus l'introduit dans ses enseignements. La première chose consiste à ce que nous demandions. Et en 1 Jean 5, au verset 14, il dit que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée. Voici la première condition. Nous devons donc demander et notre demande doit se faire selon sa volonté. Nous devons donc besoin de regarder aux Écritures, car ce sont les Écritures qui déclarent sa volonté. Et les Écritures nous diront ce qu'il nous donnera et ce qu'il faut demander. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est faire quoi? C'est demander. Ayez l'assurance et demandez. Alors, combien d'entre vous aviez peur de demander quelque chose à leurs parents? Peut-être dans certaines catégories, vous aviez peur. Mais si vous saviez que c'était selon leur volonté, auriez-vous peur? Non. Vous demanderiez. Et vos parents, voulant que vous ayez une bonne éducation, vous diraient-ils non? Si vous leur demandiez et des cahiers? Non. Ils vous en donneraient volontiers. Dans la vie, il y a des catégories que mes parents savaient que je voulais. Par exemple, pendant l'hiver, je n'avais pas demandé un manteau d'hiver. Mes parents me l'achetaient sans que je le leur demande. Mais si j'avais besoin d'un cahier à l'école, c'était ma responsabilité de demander et toutes ces choses étaient selon leur volonté et elles étaient fournies. Sa volonté, par exemple, est que nous soyons mûrs en Christ et tout ce dont nous avons besoin pour l'être. Alors, Dieu est prêt et disposé à me le procurer, sans l'ombre d'aucun doute. Alors, combien d'entre nous, ou combien d'entre vous, ont un compte en banque? Comment vous retirez de l'argent une fois que vous lui avez déposé? Vous demandez, n'est-ce pas? Ou vous émettez un chèque? Même si c'est votre argent, vous devez demander. C'est la même chose. Dieu a disposé ces choses dans notre compte, pour ainsi dire, grâce à ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Parce que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Voilà ce que la parole nous dit. Alors, j'ai tout ceci dans mon compte. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est d'aller à la banque et de demander l'argent. Alors, la prochaine chose consiste à la façon dont je dois demander, très simple, en croyant. Allons à Matthieu, au chapitre 21 de Matthieu. Vous voyez combien c'est simple. Et ça doit l'être. Matthieu 21, au verset 22, il est dit, « Tout ce que vous demanderez, voilà, ça doit être sans sa volonté, avec foi ou croyance par la prière, vous le recevrez. Donc, je dois croire. » L'opportunité consiste à ce que je demande, mais comment dois-je le faire? En croyant. C'est de cette façon que je remplis les conditions. Dans le livre de Jacques, à propos de demander la sagesse, Dieu nous dit de ne pas douter quand nous la demandons. Allons-y. Jacques 1, nous sommes en train d'examiner comment nous devons le faire, en croyant ou avec croyance. Et en Jacques 1, au verset 6, il est dit, mais qu'il la demande avec foi. Comment? Sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par les vents et poussé de côté et d'autre. Ce verset ressemble à 1 Jean 5, n'est-ce pas? Voilà l'assurance que nous avons en lui. Alors, vacillons-nous quand nous avons l'assurance? Non, non. Nous devons nous décider sur ce que nous voulons. Parfois, on dit, j'ai besoin de ceci. Puis on se dit, est-ce que c'est ça dont j'ai besoin? Vous devez être convaincu de ce que vous voulez. Il y en a, par exemple, qui demandent d'être des hommes d'affaires. Alors, vous direz-vous vraiment être homme d'affaires? Vous travaillez pour quelqu'un d'autre? Alors, décidez-vous. Nous ne devons pas vaciller. On se dit, je voudrais vraiment être un homme d'affaires. Et puis, une opportunité d'emploi se présente. Vous postulez pour ce poste. Je travaille pour quelqu'un, mais mon intelligence est sur comment c'est mon propre affaire, ma propre affaire. Non, ça ne marche pas comme ça. Soyez convaincus. Ne vacillez pas. Pourquoi? Parce que le verset 7 nous dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Nous devons être convaincus de vouloir ce que la parole de Dieu nous offre. Il y a des gens qui veulent parler en langue. Il y en a ceux qui veulent recevoir l'Esprit de Dieu. Mais après, ils se demandent s'ils peuvent réellement le faire. Nous voulons la paix de Dieu. Mais nous ne savons pas si nous pouvons arriver au point où nous pouvons pardonner quelqu'un. Vous ne pouvez pas avoir la paix de Dieu car elle exige que vous soyez indulgent et clément, avec un cœur tendre. Vous devez être en mesure de pardonner comme Christ vous a pardonné. Pareil dans le domaine financier. Vous voulez la prospérité financière, mais vous ne vous êtes pas encore décidé à dîmer ou à s'aimer abondamment. C'est comme si on disait « j'aime ceci, mais je ne suis pas encore prêt à faire cela ». Dans ce cas, vous vacillez. Vous devez cesser de vaciller, soyez affermis ou, si vous voulez, stabilisés. Demandez et vous sera donné. Et l'une des exigences étant que nous devons demander selon sa volonté. Et l'une de sa volonté, par exemple, je voudrais la paix, mais je dois être clément. Et je ne dois pas être irrésolu. Regardez dans Jacques 4. Ensuite, nous devons demander avec un objectif juste. En Jacques 4, 2, il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Si vous demandez, Dieu vous ouvrira les portes. Parfois, les gens pensent que tout ce qu'ils doivent, c'est d'aller prendre ce dont ils ont besoin. Croire ne veut pas dire d'aller prendre les choses que nous désirons. Mais c'est de demander selon la parole de Dieu. Et pour un but juste. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que Dieu le retient? Mais non. Voilà la raison ici. Si vous ne recevez pas ce que vous avez demandé, c'est parce que vous demandez mal. Et mal ici, c'est le mot grec kakos, un mal destructif. Alors, quelle est votre motivation? Les gens disent qu'ils veulent 10 millions de dollars afin de ne plus se tracasser des finances. Si je gagne la loterie, je donnerai à l'église. N'est-il pas une bonne cause? Vous savez, Dieu sent les cœurs. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. La motivation doit être correcte. La Bible amplifiée lit ce verset comme suit. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez avec une fausse raison. Je demande afin que je gagne la loto, la loterie ou le loto, pour que je ne travaille plus. Et en Genèse, Dieu dit à Adam qu'il travaillera toute sa vie, à la suite de son front. Il ne s'agit pas là d'une motivation correcte. Pouvez-vous demander un emploi que vous allez aimer? Bien sûr. Mais il y aura des aspects de cet emploi que vous n'aimerez pas. Par exemple, si vous êtes homme d'affaires, vous devriez faire les maths. Et si vous n'aimez pas les maths, vous aurez des problèmes. Et vous direz peut-être que ce n'est pas de Dieu. Décidez-vous, soyez convaincus. Que voulez-vous? Je me rappelle un récit où Dieu apparaît à Salomon dans une vision. Et Dieu demande à Salomon ce qu'il veut qu'il lui donne. Et Salomon demande un cœur intelligent pour juger son peuple, afin qu'il puisse discerner le bien et le mal. Et les Écritures disent que cette demande plut à Dieu. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, et je te donnerai ce que tu n'as pas demandé, des richesses de la gloire. Si Salomon marche bien sûr dans les voies de Dieu, Dieu prolongera ses jours. Ici, il demande dans une catégorie correcte. Ensuite, ne pas demander dans une catégorie correcte, rappelez-vous un récit de Simon le sorcier en acte 8, 18, où il est dit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, et accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Ici, vous avez Salomon qui avait une motivation correcte, et Dieu lui donna abondamment. Et vous avez, de l'autre côté, Simon, le sorcier, qui n'avait pas la bonne motivation. Heureusement qu'il finit de nouveau et cela a été fantastique, n'est-ce pas? Mais les promesses de Dieu requièrent que nous ayons une bonne motivation. Ensuite, nous devons chercher. Ça veut dire fournir un grand effort. Regardez à Proverbe 2. Une fois que nous demandons, nous devons ensuite chercher. Et en Proverbe 2, verset 1, 2 et 4, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, verset 4, si tu la cherches, c'est-à-dire la sagesse et l'intelligence ou la compréhension de la parole, comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, c'est-à-dire faire une recherche, un effort assidu. Combien de gens qui cherchent l'argent et le trouvent dans l'arrière-cour de leur maison? Vous devez l'extraire. Vous devez d'abord savoir ce que vous cherchez quand vous cherchez l'argent. Et ensuite, vous devez l'extraire. Et ceci exige de l'effort. Alors, mettez-vous assez d'effort pour chercher les écritures? En 1829, la ruée vers l'or en Californie, les gens ont traversé le désert, ils ont fait face à un environnement hostile, hein, des bandes autochtones, non indigènes, des voleurs, juste pour y arriver. Et quand ils y sont arrivés, ils ont commencé à creuser, à nettoyer la terre. Et c'était un dur labeur, je vous assure. Certains n'ont même pas reçu l'équivalent de l'effort fourni. Ils n'ont pas reçu en retour, monétairement. Mais si vous savez où se trouve le trésor, vous avez pour ainsi dire une carte géographique, vous y mettrez le maximum d'efforts, physiquement, mentalement et tout ce que ça exige. Alors, quelle quantité d'efforts êtes-vous disposé à mettre dans la parole, sachant que l'or s'y trouve ? Qu'il y a de l'argent qui vous rendra prospère et vous donnera la paix et la joie. Vous y trouverez des trésors qui vous donneront santé et force. Ce trésor vous donnera la vitalité. Combien d'efforts êtes-vous prêt à investir dans la mine de la parole de Dieu, pour ainsi dire? Cherchez et vous trouverez. C'est-à-dire, si tu la cherches, c'est-à-dire la sagesse comme l'argent, la parole comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte ou le respect de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Vous serez comme Salomon. Votre requête sera juste. Ne pensez pas que Salomon a cherché les Écritures. Il voulait avoir de l'intelligence pour discerner le bien et le mal. Et Dieu lui dit qu'il le lui donnera. Mais s'il n'était pas allé aux Écritures, il n'aurait rien trouvé. Dieu le lui avait rendu disponible, mais il devait chercher. Si nos gens consacraient seulement une partie de leur temps, qui dépense à étudier la situation financière, l'économie et la partie du temps que nous passons à étudier les livres et les programmes de régime à la parole. Voyez-vous, que désirez-vous? Allons à Matthieu 6. Matthieu 6, verset 33. Et où nous lisons? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. N'est-ce pas vous? On cherche d'abord le royaume de Dieu. Demandez, cherchez, vous trouverez. Ce n'est pas comme si vous allez en Californie où vous pourrez éventuellement trouver de l'or. Non, la parole de Dieu dit, vous trouverez. C'est absolu. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Regardez à Hébreux 11, un grand récit, au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie. Vous vous rappelez, c'était l'une des exigences. Que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qu'il cherche. Et ce mot rémunérateur veut dire récompensateur complet. En d'autres termes, tout effort que vous êtes disposé à investir, il ne vous retournera non seulement tout ce que vous avez investi, mais vous en aurez davantage. Il est le récompensateur complet. Je ne sais pas ce que vous avez manqué dans la vie à cause des circonstances, les diverses attaques de l'ennemi. Parfois, vous avez des remords sur ce que vous auriez fait, sur ce que vous auriez été, sur ce que vous auriez eu. Et Dieu est le rémunérateur complet. Ça dit qu'il nous donnera les années que les sauterelles ont ravagées, en d'autres termes. Dieu va accomplir toutes ces choses que nous avons manquées dans cette vie. Vous savez, si je perds ma montre, même si vous m'en donniez une nouvelle, elle ne remplacera pas celle que j'ai perdue. Par exemple, ma femme m'a donné une montre pour mon anniversaire. Si je la perds, tu peux m'en donner une nouvelle, mais elle ne remplacera pas le cadeau. Alors, comment l'aurai-je en retour? Dieu est le rémunérateur complet pour ceux qui le cherchent. Les gens qui ont eu, par exemple, de fausses couches, même si vous avez un autre enfant, il ne remplacera pas celui qui est mort. Dans ce monde, vous n'aurez pas de remplacement. Mais vous l'aurez dans le prochain, si ce trésor vaut tout effort d'investissement que vous pouvez fournir. C'est parce que, j'ai dit, même si nous y mettons un petit effort, que nous allions peut-être mettre dans une autre catégorie de la vie, le retour sera plus substantiel que dans toute autre catégorie où vous auriez investi cet effort, puisqu'il est le rémunérateur complet de ceux qui le cherchent. Quel Dieu et quelle promesse! Et tout ce que nous avons à faire, c'est de demander. Et on nous donnera. Cherchez, on trouvera. Il y a une autre partie à laquelle nous aimerions regarder. Et c'est frapper. Ceci veut dire aller à l'adresse correcte. Se tenant debout, avec confiance, et faire connaître votre présence. Dans le temps biblique, il n'y avait pas de porte. Vous deviez crier le nom de la personne que vous vouliez voir. Si je voulais, par exemple, voir Jean, j'allais chez lui et je criais, hein, « Jean, Jean !» Vous faites connaître, hein, vous faites connaître votre présence. Allons à Acte 3. Acte 3. Et nous allons voir l'homme à la porte du temple, appelé la belle. C'était un grand exemple à considérer. Acte 3, commençons au verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Le temple était un lieu où les enfants d'Israël venaient rencontrer Dieu. Et Pierre et Jean s'y dirigeaient vers 3 heures de l'après-midi. Il y avait un homme, boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât le monde à ceux qui entraient dans le temple. Alors, on apportait l'homme ici à la porte du temple quotidiennement. Il y avait donc plus d'une fois qu'on l'y transportait. Pour moi, cet homme n'avait pas besoin d'argent. Il devait avoir les moyens financiers pour se faire transporter quotidiennement au temple. Et la parole de Dieu dit qu'il avait environ 40 ans. Ce n'était pas un mendiant. Mendiant de l'argent. Et il est à l'endroit où il devait être, au temple. Pourquoi? Car il ne pouvait pas avoir ses besoins comblés ailleurs. Il est là où Dieu se trouve. Là où Dieu peut prendre soin de ses besoins. Et ses besoins étaient plus grands que tendre un gobelet pour qu'il ait de l'argent. Alors, en quoi consistaient ses besoins, selon vous? La guérison, n'est-ce pas? Il voulait être capable de marcher. Alors, que demande-t-il? La guérison. Et il va au lieu approprié. Et il le faisait selon la volonté de Dieu. Jésus l'Éternel qui te guérit. Jésus l'Éternel ton médecin. Pierre et Jean font partie de la grande mission que Jésus leur a confiée pour guérir les malades, n'est-ce pas? Il est au lieu parfait. faisant une requête à Pierre et Jean. Ensuite, il est dit au verset 4, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il est regardé attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Il s'attendait à recevoir de quelque chose. Demandait-il avec croyance? Bien sûr que oui. Puisqu'il s'attendait à recevoir quelque chose. Ayant quelque chose spécifique dans la tête. Voilà pourquoi il était là quotidiennement. Alors il devait être déposé au marché où il pouvait avoir plus d'argent. Mais il était au temple au bon moment, quand les gens venaient prier. Alors, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il frappa en demandant, vous voyez, comme j'ai dit, dans notre culture, nous avons une porte, mais dans la leur, ils devaient crier, ils devaient appeler le nom. Ils ont appelé Pierre et Jean. J'ai besoin d'aide. Je désire quelque chose. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Il louait Dieu. Il ne louait pas Pierre et Jean. Sa requête était adressée à Dieu. Il demanda, il chercha et frappa. Et les promesses de Dieu s'étaient accomplies dans sa vie. C'est très simple. Si nous nous levons et marchons, si nous demandons, il nous sera donné. Si nous cherchons, nous trouverons. Et si nous frappons, on nous ouvrira. Il demanda selon la volonté de Dieu. Ses motifs étaient justes. Il voulait la guérison. Et aussitôt qu'il l'a reçue, il alla au temple, marchant, sautant, louant Dieu. Ses motifs étaient-ils purs? Vous voyez comment tout s'agence. C'est vraiment très simple. Demander, chercher, frapper, aller à la bonne adresse et présentez-vous avec assurance, comme il est dit en Hébreux 4, au verset 16. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Père Céleste, merci pour votre parole merveilleuse, combien simple, facile et claire à comprendre, dans laquelle vous avez beaucoup d'exemples de guérison et de différents types de délivrance, de besoins comblés. Et merci, Père, d'avoir exaucé ceux qui viennent à vous. Ils vous demandent et vous leur donnez. Ils cherchent et ils trouvent. Et ils frappent et vous leur ouvrez les choses. Merci, Père, d'avoir été si bienveillant. Et un tel grand Dieu envers nous, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.